Oui, alors pour le titre, le socialisme sauvage, alors c'est une expression que j'ai exhumée des années de la révolution allemande, juste après 1918, parce que juste après 1918, il y avait eu la révolution en Russie, il y a eu les mutineries dans l'armée allemande, surtout dans la flotte, sur la Baltique, pour arrêter la poursuite de la guerre que l'état-major allemand voulait continuer à mener. Et tout ce mouvement de révolte et mutinerie dans la société allemande, en Allemagne impériale, a débouché sur un mouvement d'auto-organisation très vaste en Allemagne, avec la création d'un énorme réseau sur tout le pays, des centaines et des centaines de conseils ouvriers dans les entreprises, dans l'armée et aussi quelques-uns dans les régions rurales. Là-dessus, l'armée allemande, le haut commandement a compris que la guerre était perdue, la poursuite de la guerre était perdue, surtout qu'il y avait eu les mutineries sur la flotte de la mer du Nord. Et ils ont appelé au pouvoir la social-démocratie qui avait, comme vous savez, participé dans l'alliance sacrée et ramené donc tous les prolos sur les tranchées dans la boucherie de la Première Guerre mondiale. Et ils ont appelé au pouvoir donc la social-démocratie pour remettre un peu d'ordre et sauver le capitalisme allemand. Ça a été donc ça a été la fin de l'Empire, donc, et le début de la République, d'un système, un régime républicain qui aboutira quelques années plus tard à la République de Weimar. Donc, la social-démocratie, qui était une organisation, l'organisation ouvrière, on disait ça comme ça, ouvrière, c'est-à-dire de marxiste traditionnel la plus puissante de l'Europe, avec des masses d'organisations, de fonctionnaires, de gens élus à tous les niveaux, que ce soit dans les syndicats, dans les mairies, dans le Parlement. Ils avaient une représentation parlementaire très très importante. La social-démocratie a donc été appelée par ils avaient, depuis la guerre avec l'Alliance sacrée, ils avaient déjà donc un lien avec la haute hiérarchie de l'armée et ils sont accédés au pouvoir. Donc les premiers chanceliers étaient donc un type qui s'appelait Herbert, qui était un haut fonctionnaire de la social-démocratie. Et là-dessus, donc, il y a eu la première nécessité, c'était donc de mater les tendances révolutionnaires des conseils et du mouvement social qui se développait. Il y avait des grèves contre la faim, contre le manque, la pénurie, le manque d'aliments, la misère sociale, etc. Et ce mouvement de conseil, ça les gênait, même si dans la majorité du conseil, la social-démocratie, leurs militants étaient majoritaires. Mais pour eux, ce qui comptait, c'était vraiment la prise de fonction à l'intérieur de l'État impérial, enfin l'ancien État impérial qui était resté pour l'essentiel intouché dans sa structure. Et tout ce système de conseil était pour eux un système très gênant parce que, déjà, selon leur conception du marxisme traditionnel, le socialisme, c'est un mouvement qui doit être mené par la direction de la social-démocratie, qui a le savoir, le pouvoir et les connaissances pour construire une société socialiste, un socialisme d'État. Et donc, ce mouvement des conseils était pour eux vu comme un mouvement essentiellement immature, incapable de construire quelque chose de positif. Et Hébert, donc, le nouveau chancelier de l'État allemand, il avait eu cette formule en disant, tout ce mouvement spontané des conseils, c'est un mouvement immature et sauvage. Donc, ils avaient appelé tout ce mouvement un mouvement sauvage parce qu'il n'était pas, il rentrait pas vraiment dans le cadre de l'idée de la social-démocratie, d'un mouvement organisé, dominé par les chefs de la, dominé, guidé par les chefs de la social-démocratie. Donc, à l'origine, cette expression, le socialisme sauvage, c'était une expression négative, essentiellement négative. Bon, après, évidemment, à l'intérieur de ce mouvement, il y a eu des courants qui étaient véritablement des courants révolutionnaires qui se réclamaient, qui étaient influencés par les soviets russes et par la révolution russe, et qui ont essayé de pousser la révolution plus loin et essayer de construire une société différentes, imposant les questions de la socialisation de l'économie, etc. Et eux, ils ont, d'une certaine façon, se sont réappropriés cette idée d'un mouvement des conseils comme un mouvement positif. Mm-hmm. Bon, moi, j'ai exhumé cette expression des sociodémocrates allemands du socialisme sauvage, qui était dans leur bouche une expression négative, et j'ai voulu lui donner la faire vivre de façon plus positive en donnant le nom au livre pour retrouver cette filiation des courants d'auto-organisation à travers l'histoire, en dehors du savoir des chefs du socialisme vertical et bureaucratique.
En tout cas, c'est un très beau titre.
Oui, et les échappés, ils ont fait ils ont fait une belle édition. Et il y a une couverture, cette belle photo. Oui, bon, c'est ça, vous pouvez balancer après tout ça. Mais ça, c'est une photo d'un photographe d'époque, un type qui s'appelait Auguste Sander, que vous avez peut-être déjà vu par ailleurs. Il y a actuellement une rétrospective de lui à Paris qui mérite d'être vue. Alors, Auguste Sander, c'était un des premiers grands photographes allemands de l'époque. Et il faisait partie d'un groupe radical de peintres, écrivains et photographes, donc aussi, de Cologne, qui s'appelait les Progressifs de Cologne, qui était lié au début du mouvement dadaïste. C'était dans ce groupe, il y avait en particulier un mec qui s'appelait Otto Freundlich, qui après est mort d'ailleurs dans les camps et s'était réfugié en France. C'était un grand personnage de la peinture, un des premiers expressionnistes abstraits allemands, personnage très, très, très important pour beaucoup de peintres, dont des gens comme Picasso et autres. Et c'était eux et Max Ernst aussi, qui était quelqu'un qui l'avait beaucoup influencé. Et c'est eux aussi, ils étaient parmi les premiers groupes de dadaïstes en Allemagne. Mmh. Et Sander, il avait ce projet un peu très ambitieux et énorme de faire un travail de photographie sur des figures du peuple, de la société allemande, où le personnage doit représenter l'individu et aussi une classe sociale. Tu vois, c'est ça qu'il voulait faire passer dans ses photos. Oui,
le symbolisme.
Voilà. Et il a fait un travail absolument énorme. Et son fils aussi, après, était photographe, a repris le travail de son père. Son fils est mort dans un camp de concentration. Ils étaient plus ou moins tous anarcho-communistes. Ils étaient entre les communistes de gauche, c'est-à-dire les spartakistes, le mouvement du communisme anti-bolchevique, et les anarchistes. Ils étaient aussi liés à des gens comme Mouchamp, Landauer, des gens comme ça. Donc c'était des courants très très modernes pour l'époque. Et donc les copains de l'échappée ont repris ce personnage pour faire la couverture, que je trouve qui est très bien.
Associé à d'autres images, notamment un dessin, et alors ce réforme chloroforme,
c'est une affiche de mai 68.
C'est mai 68, voilà. Et Occupy, c'est plus récent.
C'est toujours très actuel, réforme chloroforme.
Oui.